Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, bon début d'après-midi. Marianne Paquette au micro qui vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes à travers l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Avril, ben, c'est le mois de la sensibilisation à la maladie de Parkinson. Et même s'il tire à sa fin, hein, il reste que quelques jours. Je voulais absolument vous en glisser un mot. Et par le fait même, rappeler qu'au Québec, il y a près de 1000 personnes qui reçoivent un diagnostic de Parkinson chaque année. Si on fait le calcul rapidement, c'est environ 3 nouveaux diagnostics par jour. Et bien sûr, ça a énormément d'impact sur la personne qui est touchée par la maladie, mais aussi sur l'entourage et la famille. Le Parkinson, c'est une maladie qui est encore plutôt méconnue, on en parle peu. Et en deuxième partie d'émission, ben, on tentera de mieux connaître la maladie avec le docteur Sylvain Chouinard, neurologue à l'hôpital Notre-Dame et co-directeur de l'unité des troubles du mouvement André Barbeau au CHUM. Et puis d'abord, vous rappelez que c'est la troisième journée du défi sportif Altergo. Un événement qui réunit, et on en a parlé au cours des derniers jours, mais aujourd'hui, c'est vraiment le point central de la discussion, des athlètes. 6000 athlètes cette année, c'est un nouveau record de participation, des athlètes qui ont tout type de troubles et de déficiences. Donc, des milliers de jeunes en provenance d'écoles partout au Québec et aussi des athlètes de la relève, oui, mais de l'élite. Donc, une rencontre unique entre ces deux types d'athlètes-là. Et ça rend unique l'événement, ça rend unique le défi sportif. Comment tout ça est possible? Qu'est-ce que ça crée comme ambiance? J'en parle à l'instant avec José Rebello, lui, athlète paralympique, membre de l'équipe canadienne de volleyball assis et directeur général de l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud. José Rebello, bonjour.
Oui, bonjour Marianne.
C'est la troisième journée du défi sportif Altergo. Comment ça se passe jusqu'à maintenant?
Ça se passe extrêmement bien. Justement, j'en reviens de là. Je viens tout juste d'arriver et je me pressais justement pour venir te parler. Puis c'était le mini-marathon, puis c'est vraiment formidable.
6 000 athlètes cette année, un record mondial. L'ambiance doit être... Ben, elle l'est, j'y suis allée, on s'est croisé, José, complètement électrisante, mais en même temps, peut-être encore plus cette année, parce que les compétitions nationales, internationales qui figurent au programme du défi cette année, c'est une opportunité pour les athlètes professionnels de se qualifier pour les Jeux paralympiques de Rio en 2016.
Exactement. Même que le défi sportif pour certaines compétitions comme Boccia et escrime en fauteuil roulant, ça compte presque le double des points pour se qualifier pour les Paralympiques. Pour nous, c'est un tournoi préparatoire parce que nous, notre tournoi qualificateur va être les Parapanam à Toronto en août. Mais c'est important, là, c'est vraiment la dernière ligne pour nous là, pour se qualifier pour les Paralympiques.
José, vous faites du sport depuis toujours, à peu près, quand on lit votre biographie. Pourtant, le sport adapté, c'est arrivé plus tard dans votre parcours. Qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de faire du sport et de concevoir aussi votre sport?
Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé beaucoup de choses dans le sens que je ne connaissais pas ça. Moi, c'est vraiment à 26 ans qu'on m'a appris que le parasport existait, que les sports adaptés existaient. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé ma carrière internationale. J'ai été un grand sportif tout le long de lorsque j'ai grandi. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, on peut pas aller plus loin. On est quand même, à cause de nos limitations, on plafonne. Et ça m'a permis encore d'aller plus loin, d'aller à un niveau international, de compétitionner avec des gens qui ont un peu les mêmes limitations que moi. Et aussi, qu'est-ce qui m'a amené qui est important, c'est que surtout que maintenant, depuis que j'ai commencé à pratiquer les sports adaptés, c'est que j'essaie d'en faire la promotion le plus possible parce que j'espère qu'un autre jeune qui était dans ma situation en entende parler par quelqu'un, tu sais, que lui ait la chance que je n'ai pas eu de commencer plus jeune dans ces sports-là et de se développer encore plus longtemps et plus vite.
Quand vous regardez, observez les jeunes du défi sportif évoluer dans le cadre de cette semaine, là, du 27 jusqu'au 3 mai, ça vous fait quoi, José Rebello?
Moi, chaque année, là, j'adore aller au défi. Et pour plusieurs raisons. Mais la principale, je te dirais, c'est que je les regarde et ça me réénergise.
Ouais.
Je me dis, ces jeunes-là, tu sais, ils ont des handicaps. J'en ai un, mais je sais pas, peut-être que je me vois pas, mais en les regardant, je les vois persévérer toute l'année, parce qu'ils s'entraînent toute l'année, hein, depuis septembre, là, qu'ils s'entraînent, puis leur seul but, c'est le défi sportif, et que, comme le mini-marathon, ils vont s'entraîner toute l'année pour réussir, et puis là, si on parle pas de finir premier, deuxième, troisième, quatrième, c'est même pas là qu'on est, c'est de finir la course, c'est ça leur objectif, et après ça, une fois qu'ils ont réussi, ils sont tellement content, tellement valorisé qu'en les regardant, on ne peut juste qu'être content pour eux autres et se dire, hey, moi aussi, là, il faut que je me pompe un peu, puis moi aussi, il faut que je persévère, c'est lui qui est capable de le faire, mais moi, j'ai aucune raison de faire différent, fait que c'est vraiment un moment magique pour moi.
C'est une source de motivation, donc. Est-ce que vous en avez eu, vous, au cours de votre parcours, des inspirations de la sorte?
De la sorte, au niveau
sportif,
oui. Sportif, oui. Dans mon temps, on parlait de Gino Brousseau, qui était l'équipe canadienne, Paul Graton, Glenn Hogue, au niveau du volleyball, parce que moi, j'aimais beaucoup le volleyball. C'était des athlètes là que j'admirais, que j'admire encore. Mais tu sais, je pouvais pas m'identifier nécessairement parce que eux, ils avaient pas d'handicap. Donc, c'est sûr que c'est par après qu'en jouant, j'ai vu d'autres personnes handicapées qui performaient à un grand niveau, puis j'étais moi-même ébahi par qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. Et c'est plus par après, en compétitionnant contre d'autres que j'ai remarqué et que je trouvais que c'était des sources d'inspiration.
José Rebello, je vous écoute et je me dis, les jeunes de la relève, quand ils participent aux défis, c'est un peu ça aussi qu'on leur offre comme opportunité, c'est de côtoyer des athlètes de l'élite comme vous, comme vos compatriotes, et de les inspirer aussi à se dépasser et d'aller plus loin. Vous pouvez offrir ce que vous n'avez pas eu dans votre passé.
Oui, exactement. Et ben, je l'espère. Moi, mon témoignage est souvent celui-là. C'est comme moi, j'ai commencé tard au niveau sport, des parasports. Mais vous êtes jeune, là, profitez-en. Puis si vous avez des rêves, puis vous voulez aller plus loin, ben continuez dans cette voie-là. Je suis certain que vous allez le réussir. Donc, si moi, à travers mon vécu, mon expérience, je peux en aligner d'autres à commencer dès maintenant et ne pas attendre trop longtemps. Et si je suis capable de faire connaître à d'autres gens qui sont pas nécessairement d'handicap, mais au niveau médical, des infirmières, des physios, des ergos, peu importe, qu'eux peuvent toucher un jeune et l'amener à pratiquer un sport, même si c'est pas élite, mais s'ils peuvent juste pratiquer un sport ou un loisir qu'ils aiment, mais je pense que tout le monde va être gagnant. C'est la société au complet qui va y gagner.
Mm-hmm. José, vous êtes aussi le directeur général de l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud. C'est quoi les objectifs que vous tentez d'atteindre dans ce rôle-là?
Bien, notre mandat premier à l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud, c'est de donner des opportunités aux enfants du quartier. Et on s'est donné aussi un mandat pour tout type de personnes qui sont vulnérables. Et là-dedans, bien entendu, on entre les personnes qui ont une limitation fonctionnelle. Donc, nous, c'est de leur donner des opportunités. Donc, on essaie d'offrir le maximum d'activités possibles pour cette clientèle-là, pour qu'ils s'y découvrent justement une passion et qu'ils sortent de leur isolement, qu'ils participent activement à la société, qu'ils se valorisent, que l'estime de soi augmente et qu'ils se sentent utiles. T'sais, c'est important.
Oui.
Je pense que les gens, quand ils sont pas isolés, quand ils participent avec d'autres, quand ils se sentent valorisés, bien, ils vont participer activement à la société, puis ils vont contribuer. Puis c'est ça que tout le monde demande, hein? Tout le monde demande à contribuer d'une façon ou d'une autre à la société. C'est pour ça qu'on est là, c'est ça qui nous motive à nous lever à tous les jours.
Oui, et on l'oublie parfois, le sport, on le voit comme une compétition, entre autres choses, mais c'est aussi une façon de se forger sa personnalité, d'apprendre la discipline, le dépassement, le travail d'équipe aussi, ça a de nombreux avantages, outre que la santé.
Oui, exactement. La santé, évidemment, mais c'est pas la santé est un objectif à avoir, bien entendu, mais ça forge également tout ce que tu viens de dire. Et c'est un moyen, je te dirais, plus facilitant que d'autres pour intégrer les gens qui sont qui vivent un peu d'isolement.
Mm-hmm. En terminant, José Rebello, vous allez participer aux compétitions de volley-ball assis parce que c'est votre sport. C'est quand la prochaine compétition dans le cadre du défi pour Toronto?
Dans le cadre du TV, nous, on joue vendredi, samedi et dimanche. On joue vendredi de 11 à 1, ensuite de 5 à 7. Samedi, deux matchs. Là, par cas, je me souviens plus des heures. Et finalement, dimanche, la demi-finale et finale pour compléter le tournoi.
Et tout ça pour vous qualifier pour Toronto, si j'ai bien compris.
Exactement. C'est un tournoi préparatoire. Toronto, on est déjà qualifié, mais c'est un tournoi préparatoire parce qu'on joue contre les États-Unis et le Costa Rica, des équipes qui vont être à Toronto et des équipes qu'il va falloir battre pour pouvoir accéder aux Paralympiques par la suite.
On peut vous souhaiter quoi pour les prochains mois, José?
Beaucoup de persévérance, beaucoup de motivation. J'ai déjà des palpitations et c'est ça que je dirais qui est le plus ardu. Là, c'est à chaque fois que j'y pense, je suis déjà nerveux, même si c'est loin. Ça me rend extrêmement nerveux parce que c'est one shot deal, comme on dit. Ouais. Tu réussis ou tu réussis pas, puis il faut que ça soit cette journée-là que ça marche. Mais c'est ça. On me souhaiter, comme on dit, de la chance.
De la chance, bien, on vous en souhaite tout plein et surtout une belle, un défi qui se termine bien, de beaux moments avec les jeunes et également avec votre équipe. On laisse le site du défi pour aller voir peut-être l'horaire de vos compétitions, www.defisportif.com. José Rebello, merci beaucoup.
Merci à toi.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Docteur Sylvain Chouinard, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes neurologue à l'hôpital Notre-Dame, également co-directeur de l'unité des troubles du mouvement André Barbeau au CHUM. Le Parkinson, c'est une maladie dégénérative, la deuxième maladie dégénérative la plus répandue après l'Alzheimer. Au Québec, ça touche 25 000 personnes. C'est beaucoup. Et pourtant, j'ai l'impression que ça reste méconnu. On en parle peu ou moins que l'Alzheimer, si on veut comparer. Est-ce que c'est parce que les causes sont pas tout à fait claires?
C'est une bonne question, puis je suis assez d'accord avec vous qu'on n'en parle pas assez. On n'en parlera jamais assez parce que je pense qu'il faut démystifier là, ce qu'est la maladie de Parkinson. Les raisons fondamentales pourquoi on n'en parle pas beaucoup. Il faut dire par ailleurs, si on veut être honnête, que dans les dernières années, là, notamment avec Michael J. Fox, on en a entendu parler beaucoup plus qu'on en avait entendu parler auparavant.
Avec Chantal Joly également.
Chantal Joly, oui, exactement. Et il y a eu d'autres exemples comme ça, là.
Oui. Bon, les causes restent méconnues. On a pointé du doigt les produits chimiques, les pesticides. Est-ce que ça tient la route comme piste?
Oui, ça tient encore la route. D'ailleurs, on a nommé notre unité en l'honneur du docteur André Barbeau. Juste pour vous dire, docteur Barbeau est un neurologue québécois qui est connu mondialement pour ses travaux sur la maladie de Parkinson. Et c'est lui qui a été un des premiers là, à incriminer les pesticides. Et la façon qu'il s'est rendu compte de cela, c'est lorsqu'il faisait des études, il a vu que les gens qui vivaient dans les régions rurales avaient plus de chances de développer la maladie.
Ah oui, parce qu'ils étaient en contact avec ces produits.
Exactement. Donc, pour l'instant, comme vous l'avez si bien mentionné, là, on ne connaît pas la cause. On a quand même des hypothèses. On pense que certainement des facteurs environnementaux, et on vient de le mentionner, là, les pesticides pourraient être un des facteurs environnementaux. Et l'autre hypothèse, c'est qu'il pourrait y avoir des facteurs génétiques.
Dans 10 % des cas, à peu près.
Oui. De fait, c'est la proportion est variable. Et ce qu'on sait, c'est que plus on est jeune, plus la composante génétique serait importante.
OK.
Donc, parce qu'on va probablement mentionner que la maladie peut se manifester quasi à tout âge. Et on sait que lorsqu'on est plutôt jeune là, et qu'on développe la maladie, cette contribution des gènes est beaucoup plus importante.
Mm-hmm. Et bon, l'âge moyen, on sait, c'est à peu près 60 ans.
Oui, on pourrait dire que c'est environ 60 ans.
Mm-hmm. Je reviens à cette piste des pesticides. Bon, vous l'avez dit, en région plus rurale, où il y a des zones aussi de culture maraîchère, on le sait davantage. Est-ce que ça peut être lié aussi à quand on consomme ces pesticides à travers les fruits et les légumes qu'on achète?
Bien, l'hypothèse, c'est que ça serait ça, de fait.
Mm-hmm.
C'est parce qu'on est tous soumis, vous et moi, là, de façon assez régulière là, à des pesticides. Et
ouais.
Ce qu'on pense, c'est qu'il y aurait des gens qui auraient une plus grande vulnérabilité et une plus grande prédisposition. Et ces personnes-là pourraient là, éventuellement là, développer la maladie de Parkinson.
Mm-hmm. L'une une cause aussi que l'on connaît liée à la maladie de Parkinson, c'est tout ce qui est lié à la dopamine. Donc, on en génère moins quand on en souffre. C'est quoi la fameuse dopamine, un neurotransmetteur?
Ouais.
Mais après, quel est le rôle dans la maladie de Parkinson?
Oui, bien, en fait, c'est bien ça. Comme on disait, c'est qu'on ne connaît pas là, qu'est-ce qui cause la maladie, mais on a la chance de savoir c'est quoi le problème au niveau du cerveau.
Oui.
Je m'explique. On sait qu'avec la maladie de Parkinson, il y a un endroit très précis du cerveau qui produit moins d'une substance chimique qu'on appelle la dopamine. La dopamine, on en a tous, en fait. La dopamine, c'est une substance chimique qui sert dans le contrôle des mouvements.
Mmh.
Et lorsqu'on perd cette dopamine-là, c'est à ce moment-là qu'il va avoir ce qu'on va dire des manifestations motrices de la maladie. Donc, on connaît vraiment là à quel endroit précis du cerveau les gens là ont ce déficit en dopamine et on comprend ce que fait la dopamine. Mais encore une fois, on ne sait pas pourquoi les cellules qui produisent la dopamine meurent
oui.
ou fonctionnent moins bien dans la maladie de Parkinson.
Et est-ce que l'on sait, Dr Chouinard, si on peut arriver à en produire, à éviter ce manque-là?
Non.
Mm-hmm.
C'est aussi malheureux que ça, là. Votre question réfère, est-ce qu'on peut là, diminuer la progression de la maladie?
Eh oui, et ou encore même la prévenir.
Oui, malheureusement, à date, on n'a pas aucun médicament ou aucune certitude là, scientifique qu'on puisse là, prévenir cette maladie. On a quand même des pistes, là, mm-hmm. mais de vous dire là aujourd'hui, madame, vous devriez prendre tel comprimé, tel produit naturel pour ralentir la progression. On n'est pas rendu là encore dans la recherche.
Dr Chouinard, en ce qui a trait aux symptômes, bon, ça, on les connaît davantage. C'est souvent associé au tremblement. Il y en a d'autres toutefois.
Oui, en fait, c'est bizarre parce qu'effectivement, quand on pense à la maladie de Parkinson, on pense souvent au tremblement.
Oui.
Ce qu'il faut dire par ailleurs, c'est que Le tremblement est rarement une maladie de Parkinson.
Hmm.
C'est souvent d'autres entités qui font qu'on tremble.
Donc, c'est un mythe?
Oui, c'est un mythe.
OK.
On vient de détruire un mythe tous les deux aujourd'hui.
Ben merci beaucoup.
Donc, effectivement, le tremblement peut faire partie des symptômes de la maladie de Parkinson. Puis, c'est un tremblement qui est assez particulier parce qu'il survient au repos. C'est donc pas un tremblement qu'on voit lorsque les gens sont en action, et c'est surtout pas un tremblement de la tête. Et ça, c'est un des symptômes de la maladie de Parkinson, mais il y a beaucoup d'autres symptômes. Il y a beaucoup d'autres symptômes qu'on dit moteurs. On peut penser à la lenteur, hein. C'est un des symptômes les plus caractéristiques, c'est la lenteur, la difficulté avec la dextérité fine.
Mm-hmm.
Souvent, les gens vont remarquer que leur écriture change, elle devient plus petite. Ils vont marcher plus lentement. Des fois même, ils vont avoir une posture qu'on dit un peu plus voûtée. Donc, c'est d'autres symptômes moteurs de la maladie, ça.
Des soucis d'équilibre aussi,
oui,
de rigidité.
L'équilibre, quoi que je dois me permettre d'ajouter, que l'équilibre, ça survient beaucoup plus tardivement dans la maladie.
Oui. Et ça, c'est intéressant que vous le mentionniez, parce que ce qui est difficile avec cette maladie, c'est qu'elle évolue différemment pour tous les patients.
Oui. C'est difficile, effectivement, d'une part pour le diagnostic, parce qu'on sait qu'il y a un niveau d'erreur. Hein, on n'a pas de... Si on vient juste au diagnostic, le diagnostic, on dit qu'il est clinique. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de test biochimique. On ne peut pas faire une prise de sang pour dire à quelqu'un, vous avez la maladie de Parkinson. On ne peut pas faire passer un examen de radiologie, une résonance pour dire, ben, vous avez la maladie de Parkinson. C'est vraiment le tableau clinique et c'est l'examen neurologique qui vont nous laisser suspecter que quelqu'un puisse avoir la maladie de Parkinson.
Ce qui fait que parfois, c'est très long avant d'obtenir un diagnostic.
Oui, d'une part, ça peut être long et d'autre part, ce qu'il faut accepter, c'est qu'il peut y avoir un niveau d'erreur.
Oui.
Donc, ça peut arriver initialement là, qu'on puisse dire à quelqu'un, mais on n'est pas certain ou c'est l'évolution qui va nous aider à préciser davantage là, si c'est une maladie de Parkinson.
Et ce qui est délicat, j'imagine, pour un neurologue qui a à traiter, ben, à traiter, c'est un grand mot parce qu'on sait qu'il n'y a pas de traitement curatif, mais à interagir avec ces gens, avec ces familles, c'est qu'on ne peut pas dire, ben, dans 10 ans, monsieur, madame, vous allez être rendu là.
C'est une source de frustration. Parce que vous pouvez vous imaginer, vous venez dans mon bureau, je vous annonce que vous avez la maladie de Parkinson, mais je peux malheureusement pas vous dire, et la réaction normale, c'est de poser la question, bien, je vais avoir l'air de quoi, moi, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Et c'est très variable là, d'une personne à l'autre. Il y a des personnes que je suis depuis plus de 20 ans et qui sont encore très fonctionnelles et qui travaillent à tous les jours.
Wow.
Donc, c'est très difficile là, de pouvoir dire. Là. Surtout, je vous dirais, c'est surtout les premières années quand on apprend, quand on rencontre les gens pour la première fois.
Toutefois, il y a des façons de gérer cette maladie-là. Et vous le dites vous-même, Dr Chouinard, l'activité physique, c'est vraiment une bonne façon de bien vivre avec la maladie.
Tous ceux qui me connaissent le savent. C'est probablement, là, on a tous nos obsessions dans la vie. Moi, je pense que le meilleur traitement, puis je l'ai dit plusieurs fois, là, le meilleur traitement est probablement l'exercice physique, l'exercice mental aussi.
Qu'est-ce que vous entendez par exercice mental?
C'est de se tenir actif au point de vue cognitif, au point de vue des fonctions cognitives, des fonctions mentales, mais aussi au point de vue de l'exercice physique. Si vous me permettez, j'aimerais un petit peu développer là-dessus.
Bien sûr.
Parce qu'on, ce qui est fantastique, c'est qu'on s'est rendu compte avec de la recherche, puisqu'on va peut-être parler de la recherche, mais on s'est rendu compte avec la recherche que l'exercice physique pouvait peut-être ralentir la progression de la maladie.
Ah oui.
Et c'est ça qui est fascinant. Quand je vous dis ça, il n'y a jamais eu d'étude qui l'a démontré. Et on se rapporte souvent là aux modèles animaux. Hein, on est capable d'induire la maladie de Parkinson. Là, ça peut vous paraître étrange, mais on est capable de rendre des souris parkinsoniennes. Et c'est ce qui nous permet de tester des pistes de traitement. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'exercice pouvait peut-être même avoir un effet qu'on dit neuroprotecteur et encore ralentir la progression.
Ah, c'est complètement fascinant.
Oui, c'est fascinant. Mais en plus, ben, il y a toutes les. Je pense que on peut pas prêcher, mais il y a tous les autres bienfaits de l'exercice, si ce n'est pour le sommeil, l'humeur, etc., etc. Donc, c'est pour moi, lorsque je vois les patients qui sont atteints de la maladie de Parkinson, je passe beaucoup de temps et je mets beaucoup d'emphase là, sur ce traitement qui ne coûte pas très cher.
Qui ne coûte pas cher. Bon, vous allez privilégier une activité physique quotidienne, douce, j'imagine, ou dépendamment des goûts ou encore de l'état physique du patient?
Ça, c'est un autre. Bonne question. En fait, ce que les études ont démontré, c'est qu'il faut qu'il y ait un petit peu d'anaérobie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on force un peu.
Okay.
Et ce qui est important, l'autre chose qui est importante, c'est qu'il faut qu'il y ait une diversité dans l'exercice. On ne peut pas juste courir à tous les jours, faire le même 5 km ou la même marche de 20 minutes. Ce n'est pas suffisant, ça. Donc, il faut privilégier des exercices qui sont différents. Donc, il peut y avoir une composante aérobie et aussi, ce qui est important, c'est les étirements. Et après ça, bien, il y a aussi d'autres choses qu'on peut inclure. Il pourrait y avoir des exercices du yoga, du tai chi et d'autres formes d'exercices. L'important, c'est d'aimer, hein, c'est d'aimer ce qu'on fait.
Oui, surtout si on sait que ça peut être un traitement adéquat à cette maladie. Parlons recherche, justement, le temps file à toute vitesse. Dr Chouinard, est-ce que l'on peut espérer éventuellement, dans les prochaines années, un réel traitement à la maladie de Parkinson?
Bien, en fait, je me permets, si on a un bon traitement.
Oui, qui est l'évadopan, c'est ça?
Oui, si oui. Je peux me permettre un commentaire. On a le meilleur traitement parce qu'on est capable de remplacer la dopamine. Mm-hmm. Donc, quelqu'un qui vient me voir et chez qui on fait un diagnostic de la maladie de Parkinson, on va initier un traitement. Et dans la majorité des cas, cette personne-là va être quasi normale.
Oui.
Et elle va être très bien pendant une certaine période de temps. Une période de temps qu'on appelle la lune de miel. Hein, c'est-à-dire que pendant 50% des gens, pendant les 5 premières années, vont aller excessivement bien. Et après ça, ben, ils vont continuer à bien aller, mais la réponse va être moins soutenue dans le temps avec la médication qu'on leur donne.
Mm-hmm.
Donc, je voulais juste faire cette parenthèse-là qu'on en a des bons traitements.
Oui.
Et par ailleurs, on n'a pas, et ce qu'on cherche, hein, le rêve de tout neurologue qui s'occupe de la maladie de Parkinson, c'est de dire un jour, ben, on va avoir guéri la maladie.
Voilà. Oui.
Puis je vais passer à d'autres choses à ce moment-là.
Oui.
Mais donc, ça, c'est là-dessus qu'on travaille. On travaille sur deux choses, d'une part. On travaille sur des façons de ralentir la progression. Et avec la recherche, on comprend de mieux en mieux là, les mécanismes, sans rentrer dans des choses trop scientifiques, là, mais on comprend de mieux en mieux là, ce qui se passe ce qui se passe au niveau du cerveau qui fait qu'on a une diminution de la dopamine. Donc, de plus en plus, il y a des médicaments là, qui sont développés, qui sont en essai, pour essayer là, de contrer ces mécanismes au niveau du cerveau.
Et Dr Chouinard, quand le lévadopane ne fonctionne plus, ne réagit plus bien, est-ce qu'on est en mesure de dire qu'est-ce qui se passe avec la qualité de vie du patient?
En fait, ça fonctionne toujours, ou quasi toujours, mm-hmm. si je veux. Et ce qui se passe, c'est qu'avec l'évolution de la maladie, par contre, dans le temps, ça ne fonctionne pas toujours aussi bien. Et les gens vont développer ce qu'on appelle des fluctuations motrices. C'est-à-dire que lorsqu'ils prennent le médicament, bien, ils vont être très bien, mais ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures.
Mm-hmm.
Et les gens peuvent développer aussi ce qu'on appelle des mouvements involontaires ou des dyskinésies. C'est des effets secondaires de la médication. Et c'est ce qui arrive malheureusement avec l'évolution de la maladie.
Oui.
Cela étant, on a dans les dernières années de nouvelles approches thérapeutiques pour aider ces gens-là. Je pense notamment aux chirurgies. Hein, maintenant, on peut faire des chirurgies en implantant des électrodes au niveau du cerveau qui aident à contrôler ces types-là de problèmes. Et plus récemment, au Québec, là, on est mm-hmm. devenu un centre d'excellence pour un nouveau traitement qui s'appelle le duodopa. C'est-à-dire que la dopamine, au lieu de l'administrer par la bouche, mm-hmm. on a trouvé une façon avec une pompe pour l'administrer de façon beaucoup plus continue.
Et tout ça est formidable et ça nous permet d'espérer. Docteur Sylvain Chouinard, vous êtes neurologue à l'hôpital Notre-Dame, co-directeur de l'unité des troubles du mouvement André Barbeau au CHUM. Évidemment, je ne vous souhaite pas de perdre votre emploi, mais ce serait bien de trouver un vrai traitement pour contrer la maladie de Parkinson. Merci beaucoup pour ces précisions.
Avec grand plaisir.
Au revoir.
Merci.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. Merci beaucoup d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien et profitez du soleil. Bye bye.